VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, très bon début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pinault et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission en ce vendredi matin.
En exclusivité sur VOA Afrique, Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, réagit à la démission du président de l'Assemblée nationale à Libreville.
Je suis surpris, car ce n'est pas du tout ce que me laissait entendre la dernière conversation que j'ai eue avec lui.
Paris promet de faire toute la lumière sur les accusations d'abus sexuels portées contre les soldats français en Centrafrique.
N'Djamena report au 7 avril du procès des quatre leaders de la société civile.
À Nouakchott, le président Mohamed Ould Abdelaziz envisage-t-il de modifier la constitution pour se représenter ?
Si jamais la Mauritanie allait dans cette direction-là, elle serait tout simplement la 12e qui parviendrait à changer la constitution pour permettre au président de rester en place.
Suite à Washington du sommet sur la sécurité nucléaire.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho, le journal des sports, Christian Gourcuff veut quitter la sélection algérienne. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Le président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Nzouba Ndama, a démissionné aujourd'hui après avoir passé 19 ans à ce poste. L'annonce a été faite lors d'un discours devant les députés, discours retransmis à la radio publique avant d'être interrompu. Dans un entretien exclusif accordé ici à Washington, le président gabonais Ali Bongo Ondimba réagit.
Je suis surpris, car ce n'est pas du tout ce que me laissait entendre la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Bon, maintenant, il m'a écrit une lettre, je n'ai pas lu cette lettre, je ne peux pas spéculer, faire de commentaires particuliers. Si le président du parti est en même temps président de la République, il est le candidat naturel du PDG. Et c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Un président sortant a toujours un avantage.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba au micro d'Idriss Fall.
Une interview à retrouver sur notre site internet voaafrique.com. On y reviendra dans la deuxième partie de notre émission. La France promet de faire toute la lumière sur les accusations de viol commis par ses soldats en Centrafrique. L'ONU enquête de son côté sur les nouvelles accusations révoltantes de sévices commis par ses soldats français ainsi que des casques bleus de l'ONU. Son secrétaire général Ban Ki-moon se disant profondément choqué. Des responsables de l'ONU ont pu interroger au total 108 victimes présumées d'abus sexuels, en majorité des mineurs.
Et c'est dans ce contexte que les électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes hier pour le second tour des législatives. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais avec une très faible participation des électeurs.
Au Rwanda, un tribunal militaire a condamné hier à Kigali l'ancien chef de la garde présidentielle et un général à la retraite à de longues peines de prison. Ils étaient accusés d'incitation au soulèvement. John Lyndon.
Le colonel Tom Byabagamba a écopé de 20 ans et 1 an de prison et de la dégradation militaire. Frank Ruzagara, un général à la retraite, est condamné à 20 ans de prison. Une autre personne jugée à leur côté, François Kabaïza, chauffeur du général, a été condamné à 5 ans de prison pour rétention de preuves. Ils avaient été arrêtés en août 2014 pour incitation au soulèvement. Tous avaient plaidé non coupables et ont fait appel du verdict. Le général Ruzagara, ancien secrétaire général du ministère rwandais de la Défense, était accusé d'avoir relayé la propagande du Congrès national rwandais. Ce parti, formé par des opposants en exil, d'anciens compagnons de lutte du président Paul Kagame, qui les qualifie de traîtres et de terroristes. Le colonel Byabagamba, ancien chef de la garde présidentielle, est aussi le frère de David Imbara, un ancien conseiller économique à la présidence qui vit en exil et continue de vivement critiquer le régime de Kigali.
Le Soudan du Sud a informé le Conseil de sécurité de l'ONU de l'arrivée imminente de troupes rebelles dans la capitale Juba. Il s'agit d'une étape prévue par l'accord de paix d'août 2015, censée mettre fin à la guerre civile. L'arrivée de ces forces par avion doit ouvrir la voie à celle de Riek Machar, le chef de la rébellion, qui doit former un gouvernement d'unité et de transition avec le président Salva Kiir.
Et on rappelle que Riek Machar a été nommé vice-président du Soudan du Sud en février, un poste qu'il occupait déjà aux côtés de Salva Kiir avant le déclenchement du conflit, c'était en décembre 2013.
En République démocratique du Congo, la troisième banque du pays a annoncé hier qu'elle limitait les retraits face à une crise aiguë et brutale de liquidités. Eddy Issango.
La Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC, est presque à court de liquidités. Sa nouvelle directrice par intérim Anne Mbogudje a annoncé hier à Kinshasa que son institution ne peut satisfaire l'intégralité des demandes et limite temporairement les retraits à 500 dollars par jour. Elle a précisé que pour les entreprises, des exceptions pouvaient être faites et que la BIAC n'est pas en faillite mais traverse une crise passagère. Pris de panique, nombre de petits épargnants se sont rués en 2 semaines vers les guichets pour retirer leur argent. Ces difficultés de la BIAC risquent de renforcer la méfiance de la population et entraver les efforts des autorités pour créer une épargne nationale. Il faut dire que les finances publiques en RDC, cinquième productrice du cuivre de la planète, sont déjà mises à rude épreuve par la chute des cours des matières premières.
Le président sud-africain Jacob Zuma a subi un revers cinglant hier avec un arrêt historique de la plus haute juridiction du pays. La Cour constitutionnelle l'a reconnu coupable d'avoir violé la Constitution en utilisant des fonds publics pour sa résidence privée. La Cour a ordonné de rembourser l'argent. Jacques Aristide.
La ferme Kandla, du nom de la luxueuse propriété en pays Zoulou du président Zuma, remonte à 2009. L'État avait alors payé 246 millions de randes, environ 15 millions de dollars, officiellement pour améliorer la sécurité de la résidence privée du président. Les travaux incluaient notamment la construction d'une piscine, d'un poulailler, d'un enclos pour le bétail, d'un amphithéâtre et d'un centre d'accueil des visiteurs. C'est tout cela justement que la Cour constitutionnelle lui réclame de rembourser. Il revient désormais au Trésor sud-africain de déterminer la somme à restituer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, suite ce vendredi du sommet nucléaire de Washington, la tension des dirigeants mondiaux se glissera sur le groupe État islamique après s'être beaucoup concentré jeudi sur la Corée du Nord. Des détails avec Félix Yepassi Zembro.
Réuni jeudi en marge du sommet, le président Barack Obama, son homologue Park Geun-hye et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont fait front commun contre les récents nucléaires et missiles de la Corée du Nord. Des actes qualifiés de provocation par le chef de l'exécutif américain. Les trois leaders ont réitéré leur engagement à assurer la défense mutuelle de leur pays. Ils ont aussi averti qu'ils pourraient prendre d'autres mesures pour contrer les menaces de Pyongyang. Barack Obama a eu des entretiens séparés avec le président Xi Jinping, la Chine étant ce que la Corée du Nord compte de plus proche comme allié. Le président américain a dit par la suite que son homologue chinois et lui sont d'accord pour une application intégrale des dernières sanctions onusiennes contre le régime de Pyongyang. Toutefois, le président Xi n'a donné aucun signe d'un désir d'aller au-delà de ce qui a été convenu début mars au Conseil de sécurité concernant la Corée du Nord.
À noter que la Maison-Blanche a annoncé que le président américain avait rencontré son homologue turc Erdogan à Washington, un entretien qui n'avait pas été programmé à l'avance.
Le département d'État américain qui se dit horrifié ce matin par des frappes de l'aviation syrienne ayant fait une trentaine de morts, dont des enfants, dans la localité de Deir al-Sarif, un bastion rebelle à l'est de Damas. « Nous condamnons dans les termes forts toute attaque ciblant directement des civils », a affirmé la diplomatie américaine dans un communiqué.
Oh, le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, tente d'installer son pouvoir à Tripoli avec le soutien de la communauté internationale. L'Union européenne a imposé hier des sanctions contre 3 poids lourds des 2 autorités rivales qui se disputent le pouvoir et s'opposent depuis des semaines à l'installation en Libye du gouvernement d'Union formé sous l'égide de l'ONU.
La justice belge a donné son feu vert à l'extradition vers la France de Salah Abdeslam. Cette extradition du suspect clé des attentats du 13 novembre est attendue par les autorités françaises pour faire la lumière sur le réseau djihadiste derrière les tueries de Paris et Bruxelles.
Un séisme de magnitude 6 s'est produit ce matin au large de la côte sud-est du Japon, sud-ouest pardon. Selon l'Institut d'études géologiques américain USGS, aucun risque de tsunami, a précisé l'agence japonaise de météorologie.
Enfin, en plein essor dans le monde, l'obésité touche aujourd'hui près de 650 millions d'adultes, soit 13% de la population mondiale. Ce pourcentage pourrait atteindre 20% d'ici 2025.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. On retrouve à présent Lionel Gaïma pour la Minute Éco.
Venu au sommet nucléaire de Washington organisé par le président Obama, son homologue nigérian Muhammadu Buhari a requis l'aide des États-Unis pour récupérer les millions de dollars de fonds publics nigérians détournés et déposés sur des comptes à l'étranger. Washington facilitera le rapatriement de cet argent, a assuré le secrétaire d'État John Kerry. En 2014, le gouvernement américain a pris contrôle de plus de 480 millions de dollars détournés par le dictateur nigérian Sani Abacha et disséminés dans diverses banques à travers le monde. Kenya Airways, en difficulté financière, la compagnie aérienne kenyane, a annoncé jeudi qu'elle va supprimer 15% des postes de ses 4000 salariés, soit quelques 600 emplois, dans l'espoir d'économiser environ 200 millions d'euros. La compagnie détenue en partie par Air France, KLM et le gouvernement kenyan a fait savoir que la restructuration débutera au mois de mai. Le gouvernement zimbabwéen envisage d'émettre de bons du Trésor et aussi de lever des impôts fonciers. Objectif, réunir des fonds nécessaires à la compensation des fermiers blancs évincés de leurs terres. Prise dans l'espoir de s'attirer les bonnes grâces des pays occidentaux, cette mesure prendra du temps, a fait savoir le ministre zimbabwéen de Finances, Patrick Chinamasa.
Merci Lionel. Place à présent au sport sur VOA Afrique. Et pour en parler, nous retrouvons ce matin John Lindon. On va commencer par le football, hein, John. Christian Gourcuff ne veut plus entraîner la sélection algérienne. Alors que les rumeurs sur sa démission bruissent depuis quelques jours, Christian Gourcuff a démenti hier dans les colonnes du journal Le Télégramme de Brest. Le sélectionneur des Fennecs affirme qu'il reste à la tête de l'équipe d'Algérie, mais confirme sa volonté de quitter ses fonctions. En Guinée aussi, l'avenir de Luis Fernandez, toujours incertain malgré la victoire contre le Malawi lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2017.
Luis Fernandez ne sait toujours pas s'il va rester en Guinée. Rien n'est exclu, on va prendre un peu de temps pour réfléchir, a-t-il déclaré. Certaines sources indiquent toutefois que Luis Fernandez pourrait ne pas finir les éliminatoires de la CAN 2017 avec la Guinée.
On va rester en Afrique de l'Ouest, John, pour parler du cas d'Emmanuel Eboué, limogé par son club de Sunderland. L'international ivoirien a d'abord été suspendu pour un an par la FIFA pour ne pas avoir réglé une dette à son agent. Cette suspension pourra être levée si le joueur paye sa dette envers son agent. Pour ne rien arranger, le club anglais de Sunderland a donc décidé le même jour de le licencier suite à cette histoire. Mais le club précise que l'arrière-droit a 2 semaines pour faire appel de cette décision. Un résultat du championnat ivoirien de football pour vous dire que le stade Abidjan prend la tête du classement après sa victoire 1-0 sur le terrain de l'Africa Sport. On parle à présent du mondial 2022 au Qatar, des travailleurs victimes d'abus flagrants.
Tout à fait Nicolas, plus de 100 travailleurs étrangers qui aident à construire un des stades du mondial 2022 de football au Qatar ont souffert d'abus flagrants et systématiques. Mal logés, passeports confisqués, travail forcé, affirme Amnesty International dans un rapport publié hier. Le comité suprême du Qatar, chargé de superviser l'organisation du Mondial 2022, a dénoncé ce rapport. Le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales entend quant à lui mener une enquête.
Football encore, 5 internationales américaines attaquent leur fédération pour discrimination salariale.
5 membres de l'équipe nationale féminine attaquent la fédération de football de leur pays devant la justice civile pour discrimination salariale, dénonçant l'écart des traitements avec leurs collègues hommes. Nous avons prouvé ce que nous valions au fil des années, a commenté Carly Lull, milieu de terrain élu meilleure joueuse de la Coupe du Monde 2015. Nous sortons d'une victoire en Coupe du Monde et l'écart salarial entre hommes et femmes est simplement trop important.
Et Michael Jordan, retraité des parquets, mais retraité du sport, le mieux payé au monde, selon le magazine Forbes.
La légende des Chicago Bulls, Michael Jordan, a touché 110 millions de dollars en 2015, donc 100 millions du géant Nike, en royalties pour l'utilisation de son nom pour sa célèbre gamme de chaussures. Tout ceci fait de Jordan le retraité du sport le mieux payé de la planète, selon une étude du magazine américain Forbes.
On parle tennis, tournoi de Miami et la qualification de Svetlana Kuznetsova.
Oui, la russe Svetlana Kuznetsova, 19e mondiale, s'est qualifiée jeudi pour la finale du tournoi de Miami en battant la Suissesse Timea, 20e mondiale, 7-5, 6-3. Et pour terminer, Nicolas, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Cleveland a dominé Brooklyn 107-87 cette nuit grâce à 24 points de LeBron James, devenu le 12e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Indiana chute encore à domicile, cette fois contre Orlando, 94-114. Une défaite qui fait l'affaire des Bulls de Chicago, vainqueur à Houston, 103-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre émission. Nous vous en parlions dans le journal. Le président de l'Assemblée nationale gabonaise, Nzumba Ndama, a démissionné officiellement hier de ses fonctions à l'approche de la présidentielle de 2016. Nzumba Ndama, 70 ans, est membre du PDG au pouvoir et ce, trouve au perchoir de l'Assemblée depuis 1997. Mardi, trois autres barons du PDG, Michel Manga, Jonathan Inouba et Alexandre Barraud-Chambrier, ont créé un courant frondeur. Ils ont été destitués de leur mandat. En exclusivité ce matin, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, de passage à Washington, a accordé un entretien à VOA Afrique. Au micro d'Idriss Fall, Ali Bongo réagit à la démission du président du Parlement.
Je suis surpris, car ce n'est pas du tout ce que me laissait entendre la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Bon, maintenant, il m'a écrit une lettre. Je n'ai pas lu cette lettre. Je ne peux pas spéculer, faire de commentaires particuliers. Je verrai beaucoup plus clair lorsque je rentrerai à Libreville et que j'aurai lu sa lettre.
La lettre du continent avait annoncé qu'il va annoncer lui-même sa candidature à la présidence le 5 avril.
Ça fait plusieurs semaines qu'on a dit qu'il allait faire une annonce au mois de mai, en mars, mais c'était repoussé à avril. Donc, il ne faut pas spéculer, nous attendons. Il m'a écrit une lettre, je lirai cette lettre à ce moment-là, je verrai. Pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure.
Mais vous-même, vous êtes candidat, alors?
Bien sûr.
Dès l'annonce de votre candidature, il y a eu des caciques du PDG qui ont dit que ce n'était pas la procédure et que ces caciques ont été exclus.
Non, pas du tout. La procédure était celle qui a été indiquée, parce que c'est l'article 29 de mon statut, donc, et qui disent clairement ceci, que si le président du parti est en même temps président de la République, il est le candidat naturel du PDG. Et c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Un président sortant a toujours un avantage. En 2009, je n'étais pas président et je suis passé par la formule des primaires. Donc c'est pour dire que je ne redoute pas les primaires. Nous étions 10 candidats aux primaires, je suis passé par là.
Le président de l'Assemblée nationale qui s'en va, 3 caciques, vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de barons qui quittent le navire ?
Mais ça, ce n'est pas la première fois. En 1993, le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait d'ailleurs Jules Bourdès ou Gulingende, nous avait quittés. Non, ce n'est pas la première fois.
Et vous êtes convaincu que vous allez gagner ce scrutin ?
On ne se lance pas dans une aventure comme celle-là si on n'a quand même pas de chance de succès. Donc moi, je sais ce que nous avons fait. J'ai un programme, j'ai un certain nombre d'acquis. Et par rapport à cela, par rapport au programme qui est le mien, je pense que je peux susciter le soutien de mes compatriotes.
Pourquoi il n'y a jamais eu de dialogue avec l'opposition gabonaise ?
Il y a toujours eu le dialogue avec l'opposition gabonaise. Maintenant, ça dépend ce que vous mettez comme définition dans le terme de dialogue. Parce que pour certains, dialogue, c'est que vous écoutez ce que je vous dis et vous faites ce que je vous dis. Pourquoi voulez-vous que je le fasse ?
Pour apaiser les esprits, parce que généralement, il y a eu
apaiser quoi ? La population a eu le temps de choisir. À quoi sert l'élection ? La sélection sert à ce que nous allions devant le peuple et que nous présentions tranquillement, calmement, nos programmes. Le peuple est le souverain qui choisit. Maintenant, quand le peuple a choisi, il faudrait que l'on mette de côté ce choix-là pour aller vers ceux que le peuple a rejetés. Il y a un problème là.
Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, une interview à retrouver sur voaafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Autre contestation à Brazzaville où la réélection proclamée de Denis Sassou Nguesso ne passe toujours pas. Quatre ONG dénoncent les arrestations des opposants et demandent la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées pour leurs convictions politiques. Elles appellent aussi la police à être au service de la démocratie, comme l'a constaté le correspondant de VOA Afrique sur place, Nguelan Goussou.
Le communiqué conjoint de Amnesty International et trois ONG locales, l'OCDH, la RDPH et la DUC, énumère une dizaine d'opposants politiques arrêtés après l'élection présidentielle du 20 mars. C'est plus dans le camp de Jean-Marie Michel Mokoko et celui de André Okombi-Salissa que s'opèrent ces arrestations. Le directeur exécutif de l'OCDH, Trésor Ndila Kende, parle lui d'une cinquantaine de détenus politiques déjà à la DGST, exprimant ainsi sa vive préoccupation.
L'arrestation et la détention des personnes impliquées dans des manifestations pacifiques est une grave violation du droit à la liberté d'expression et des réunions pacifiques. Alors, toute personne détenue sur cette base doit être immédiatement libérée. Hier, il y a eu l'interpellation de Madame Issami, qui est vice-présidente du comité des femmes de la CIADD. Elle était interpellée au commissariat de Kibélibaï. Sous les griefs, les motifs de l'interpellation, aucune mention dans la main courante. Inadmissible dans un état de droit. On risque de créer un chaos total. Et si ce chaos s'installe dans le pays, quelle est la suite? Ce sont les droits humains qui en pâtissent.
Megson Anima, un autre défenseur des droits de l'homme, s'interroge sur le type d'infraction qui puisse justifier aujourd'hui cette vague d'arrestations dans le milieu de l'opposition.
C'est que le fait d'exprimer une opinion différente de celle de ceux qui sont au pouvoir n'est pas une infraction. Au sens du code pénal, je ne sais pas c'est quelle infraction, mais malheureusement la police qui est devenue un instrument d'un camp, personne n'a été capable de dire sur la base de quel article du code pénal on a interpellé un tel ou un tel. Moi je pense que jusque-là c'est des délits d'opinion.
Mais les responsables de la police sauront-ils écouter ces quatre ONG? De nombreux Brazzavillois sont pessimistes, malgré la détermination ici de Claude-Evie Wenadio, responsable juridique à la DUC.
Moi, nous constatons, nous les défenseurs des droits de l'homme, qu'il y a des arrestations arbitraires qui se font ici au Congo. Et donc, lorsque nous dénonçons ce genre de choses, nous espérons que nous ne le faisons pas en vague et que nous ne le disons directement aux autorités. Et ces autorités sont des personnes et ils savent qu'il y a des droits à respecter et je pense que ils pourront peut-être faire quelque chose.
On a constaté depuis ce matin le dispositif policier se desserrer dans les quartiers sud de Brazzaville, siège de la contestation électorale. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Controverse en Mauritanie au sujet d'une éventuelle levée de la limitation des mandats en faveur du président Mohamed Ould Abdelaziz, venu au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu en 2009 et réélu en 2014. La majorité des Mauritaniens ou tout le peuple mauritanien estime que le président mérite un troisième ou un quatrième ou un cinquième mandat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'a déclaré cette semaine le porte-parole du gouvernement mauritanien Mohamed Lemine Oul Cher. Des propos qui font débat évidemment. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Cédric Jourde, il est professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa au Canada. Il est spécialiste de la Mauritanie.
Pour l'instant, si j'ai bien compris, ce sont surtout des gens dans l'entourage présidentiel qui émettent cette idée. Si jamais la Mauritanie allait dans cette direction-là, ben elle serait tout simplement la 12e qui parviendrait à changer la constitution pour permettre au président de rester en place.
L'opposition mauritanienne est naturellement contre une telle idée, mais quel est son poids politique aujourd'hui?
Ça va dépendre de sa capacité à mobiliser la rue, j'ai envie de dire, d'une part, et d'autre part, des acteurs importants de la communauté internationale. Parce que si on regarde dans le voisinage de la Mauritanie, il y a le cas du Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina, a voulu changer la constitution, une partie importante de la population est descendue dans la rue pour dénoncer cette tentative de coup d'État constitutionnel. Et je pense qu'il y a aussi eu des pressions, notamment des alliés occidentaux du Burkina. Et donc, Compaoré a dû céder. Et au Niger, quand le président Tandja a voulu faire la même chose, ben, c'est un coup d'État finalement qui l'a empêché parce qu'il avait décidé d'aller de l'avant. Alors, vous voyez, ça va dépendre de la capacité de l'opposition à faire un peu ce que l'opposition burkinabé a fait, c'est-à-dire de mettre suffisamment de pression sur le président. Mais c'est pas juste l'opposition, c'est les organisations de la société civile, peut-être des organisations plus informelles aussi.
Quel rôle ont joué les organisations régionales et continentales comme la CDAO ou l'Union africaine face à ces tendances à ôter les limites du mandat?
Il y a eu des rôles assez paradoxaux, j'ai envie de dire, parce que, par exemple, dans le cas du Burkina, la CDAO a été, elle a été critique, mais de manière très soft. Ça n'est pas là d'où est venue la pression la plus forte. Dans le cas du Burundi, par exemple, on avait mandaté trois présidents pour aller essayer de donner raison, ou en tout cas de dénouer les fils de la crise au Burundi, mais deux des trois présidents étaient eux-mêmes des gens qui étaient venus au pouvoir par coup d'État. Donc en fait, idéalement, il faudrait que ceux qui discutent avec les présidents qui veulent changer la Constitution soient des gens qui eux-mêmes sont issus de pays où on respecte à 100% la Constitution.
Cédric Jourde, professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, alors que le calendrier électoral reste toujours suspendu aux tensions entre les autorités, la CENI et l'opposition, les mouvements de la société civile ne sont pas en reste pour exprimer leurs inquiétudes pour l'organisation de la présidentielle. Ils dénoncent également la répression dont ils ont fait l'objet depuis au moins un an. Tatiana Mousso a recueilli la réaction de Floribert Anzuluni, le coordonnateur du Front Citoyen 2016, de passage dans nos studios à Washington.
Monsieur Nanga n'est pas simplement en retard de publication, il refuse de publier un calendrier électoral.
Il dit qu'il lui faut beaucoup plus de temps pour constituer le fichier électoral.
Il faudrait pour cela qu'il publie le calendrier pour que chacun d'entre nous puissions avoir les détails des étapes qui sont intégrées dans le timing de M. Nanga. Ce que nous n'avons pas. La loi exige la publication d'un calendrier. Le calendrier n'est toujours pas publié. La dernière déclaration de M. Nanga est une déclaration extrêmement dangereuse et illégal et inconstitutionnel. Tout simplement parce que, premièrement, M. Nanga n'a pas le pouvoir, ni constitutionnellement, ni légalement, de faire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander à ce que l'élection présidentielle qui est constitutionnelle soit organisée au-delà du délai. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle n'est pas non plus habilitée, suivant la même constitution, à émettre un avis sur une requête qui leur serait transmise par rapport à ce même point-là. Donc M. Nanga, en posant cet acte-là, confirme ce que nous disons depuis toujours, la CENI est manipulée, est au service des autorités, au service du pouvoir, et donc est en train de jouer aujourd'hui la stratégie du glissement, qui est une stratégie très dangereuse parce qu'elle peut nous emmener dans une situation d'instabilité et de chaos.
Il était aussi à New York pour demander l'aide des Nations Unies pour la logistique, la distribution, la répartition du matériel. Est-ce que, à vos yeux, aujourd'hui, on peut organiser des élections crédibles, bien organisées, avant la fin de l'année?
Oui, je le confirme. La première chose, c'est que ce défi ou ces contraintes logistiques ont été créées de toutes pièces par les autorités en complicité avec la CENI. Deuxièmement, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas organiser les élections dans le délai, là encore, il se pose un problème. En 2006, nous avons eu des élections. En 2011, nous avons eu également des élections. Et maintenant, en 2016, la revue, le nettoyage du fichier électoral a pris pratiquement 9 mois en 2006, plus ou moins 6 à 7 mois en 2011. Et suivant le dernier audit de l'OIF avec des experts accrédités, ce nettoyage devrait prendre entre 4 et 6 mois.
Alors vous êtes en exil depuis au moins un an. Tout le monde se demande comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on reste crédible auprès de ceux qui sont encore sur le terrain ou incarcérés.
Nous sommes tous accusés de tentatives de coup d'État, renversement du pouvoir, sans aucune preuve. Nous restons crédibles parce qu'à ce stade-là, simplement ce qui se passe, c'est que chacun joue son rôle. Nous jouons pleinement notre rôle. Le Front citoyen dont vous avez entendu probablement parler est une initiative que nous avons menée en étant à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez, pour la première fois au Congo, les principales forces politiques, les principales forces de la société civile qui sont unies pour un même objectif qui touche à l'intérêt, on va dire, supérieur de la nation.
Floribert Anzuluni, le coordonnateur du Front citoyen 2016.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225 0158928540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. On va évidemment terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer Christian Giralta qui nous écoute au Tchad, dans la capitale N'Djamena. Également Anita Tiama à Mbujimayi, c'est en République démocratique du Congo. Comme retrouvez-nous sur Facebook, déjà plus d'1 million de fans, et notre site internet voaafrique.com.